I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast cette semaine. Je suis avec Mathieu Gallet. Salut Mathieu.
Salut Stéphane.
Et on va parler de Piège en eau trouble. Si vous avez vu le petit poster, enfin la petite vignette qu'on met, en fait, vous avez cliqué fébrilement parce que c'est un film avec Bruce Willis, tu vois.
Quand même.
Vous vous dites, putain, est-ce que c'est un Dire Exploitation? Qu'est-ce que c'est, etc., etc. Est-ce que ça revient, on revient en arrière? Si vous n'avez pas vu le film, sachez tout de suite que non, ce n'est pas un Dire Exploitation, si ce n'est dans le titre français.
Voilà.
Le titre anglais, c'est Striking Distance. Et c'est un film policier, en fait, en vrai, plus qu'autre chose, oui, même un film de serial killer.
Un thriller, hein. C'est un peu plein de choses, en fait.
Voilà.
Ça essaye d'être un peu tout à la fois, voilà. Ce qui est un peu partie du problème.
Et tu vas nous le pitcher?
Je vais vous le pitcher, tout à fait. Alors, donc Striking Distance, Piège en trouble, Bruce Willis joue Tom Hardy, aucun lien de parenté, qui est un officier de la brigade criminelle de Pittsburgh, en Pennsylvanie, et qui travaille sous les ordres de son père. Et qui, quand le film commence, est un peu en froid avec le reste de sa brigade, puisqu'il a témoigné contre son partenaire, qui est aussi son cousin, puisqu'il est une famille de flics, et pour une affaire de brutalité policière. Et son cousin va être condamné. Et en plus de ça, il y a un serial killer qui s'en prend aux femmes, qui kidnappe des femmes, les étrangle et les jette dans le fleuve de Pittsburgh, qui sévit. Et donc, quand le film commence, il se rend au bal de la police avec son père quand la voiture du tueur est signalée et une course-poursuite s'engage. Ça se termine par un crash. Le tueur s'enfuit, son père meurt et derrière, son cousin mis en examen se suicide en se jetant d'un pont. 2 ans après, Bruce Willis n'est plus à la brigade criminelle. Il est devenu patrouilleur sur la brigade fluviale, donc sur les bateaux de la police du fleuve. Et il se retrouve, on lui met entre les pattes une nouvelle partenaire, jouée par Sarah Jessica Parker, au moment où...
Top crédibilité, j'ai envie de dire, déjà.
On avait dit qu'on faisait pas de vannes sur Sarah Jessica Parker.
Ah, pourquoi?
Non, parce qu'après... Non, et à ce moment-là, le tueur en série refait surface, et notamment en s'en prenant aux ex de son personnage.
Voilà. De Bruce Willis.
De Bruce Willis. Et donc, il va devoir remener l'enquête en étant à nouveau en porte-à-faux avec, toujours avec la brigade criminelle, qui est maintenant dirigée par son oncle.
Parce que en fait, alors le fait qu'il se retrouve dans la brigade fluviale, c'est aussi qu'il est un peu tricard, quoi. Il est
voilà,
mis à l'écart.
On l'a mis au placard, quoi.
On est en plein dans le Bruce Willis Plotation, là. C'est-à-dire qu'avant, on lui fait jouer un alcoolo,
il
en
est
gros.
Contre sa hiérarchie.
Voilà, on lui fait jouer un alcoolo à la Joe Allen Beck, à la McLean. On sait qu'il est pas alcoolo, mais on se doute qu'il a quand même un peu. Enfin, si, ceci étant dit, dans le 3,
il est alcoolo.
Donc c'est, on est clairement dans le mythos Bruce Willis, quoi. La mythologie, mais. Et puis je pense que le film a été clairement taillé autour de lui, même si j'ai l'impression quand même que c'est pas du tout un film qui était...
C'était pas lui qui était prévu au départ, je crois que le film a été proposé à Ed Harris notamment, voilà. Ou à, peut-être même à De Niro, je crois, il me semble.
Et alors il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que moi je m'étais fait un peu cette réflexion en regardant le film, mais en fait une réflexion post... En fait moi j'ai du mal à détester le film, même si c'est pas un très bon film, faut être honnête, hein.
Non, c'est un film,
on sent qu'il est caviardé en fait par les demandes des studios. C'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup, ils se sont dit bon, il n'y a pas d'action, les gars, donc vous mettez une scène d'action là, et puis une scène d'action là, et puis une scène d'action là. Et donc, du coup, tu sens que le film, il est complètement déséquilibré.
Oui, c'est schizophrène.
Voilà, et que ça, à la base, c'est plutôt un drame policier.
Ouais, c'est un film de serial killer. Parce qu'on était, alors on n'était pas encore dans le boom des films de serial killer, puisque Seven n'était pas encore sorti.
Non, mais t'as les Sciences des Agneaux.
Voilà, il y a eu le Sciences des Agneaux juste avant, effectivement. Mais oui, ça s'inscrit, ça s'inscrivait au départ dans ce genre. Et d'ailleurs, le film ne s'appelait pas Striking Distance à la base, parce que Striking Distance, c'est un film qui, effectivement, c'est un truc qui évoque plus un film d'action. Et le film, à la base, avait pour titre, au moment du tournage, ça s'appelait Three Rivers, qui était, en fait, qui fait référence au fait que le principal fleuve de Pittsburgh naît de la confluence de 2 autres fleuves, en fait.
Ouais,
voilà. c'est un titre qui évoque effectivement plus le mystère, le suspense, et trucs comme ça, quoi.
Et alors, et avec ce truc où, j'avais du mal mal, ce que je disais, j'avais un peu du mal à détester le film parce que, encore une fois, c'est pas un bon film, hein, qu'on soit clair, mais c'est vrai que tu sentais pas. En fait, si tu veux, quand tu regardes ces films-là au moment où ça sort, par défaut, tu t'attends à voir un film d'action parce que c'est comme ça qu'ils te le vendent, mais c'est vrai que tu te rends compte que c'est un peu moins que ça et que c'est un peu. Enfin, tu vois que le film est complètement pris entre plusieurs tenailles, entre plusieurs demandes.
Entre
et...
deux os.
Voilà, bravo. Alors, on avait dit, pour le coup, on avait dit qu'on ferait pas des jeux de mots de merde sur la flotte. Alors, attention, attention. Et du coup, en fait, rétrospectivement, moi, je comparerais le film à un Copland raté.
Il y a un peu de ça, ouais.
Parce que, en fait, il y a une espèce de logique de drame familial. En
tout
fait.
À fait, oui, puisque ouais. C'est l'idée de la famille de flic voilà. Où il est confronté à le rejet de sa famille parce qu'il s'est retourné contre sa famille. À la base, on voit, il y a le père et les cousins, mais tu as la scène, en plus, ils en rajoutent, puisque tu as la scène de, où il va au bal de la police, où tu vois l'autre côté de la famille, avec Tom Atkins notamment, qui joue son autre oncle, et on voit qu'effectivement, c'est carrément une dynastie de flics, en fait.
Quoi. Voilà, c'est ça. Et il y a cette logique-là un peu dans Copland, quoi.
Oui, oui.
C'est la ville.
La ville où, qui agit comme une grande famille. Ça, ouais, y a c'est pas forcément,
c'est pas forcément un truc familial, mais en tout cas, ils ont cette logique-là, cette logique-là avec un patriarche, voilà,
de fonctionnement en communauté fermée, en fait.
Voilà. Et du coup, en fait, tu sens... Enfin, encore une fois, Roddy Harrington n'est pas un très grand réalisateur non plus, faut être honnête, quoi. C'est le réalisateur de Roadhouse, un autre film qui s'appelait Gladiator, qui n'a rien à voir avec le film de Ridley Scott, quoi, mais qui était un truc complètement oublié avec un des acteurs, je crois, de Twin Peaks, quoi, et que j'avais vu à l'époque, c'est pareil, avec aucun souvenir.
Moi, je t'avoue qu'effectivement, Roddy Harrington, à part ces deux-là, les deux que t'as cités.
Murder of Crows.
Ben oui, je connais Murder of Crows, mais je ne l'ai jamais vu.
Avec Tom Berenger, grande star des ventes à 1€ sur ses discounts.
Murder of Crows. Hein, c'était Cuba Gooding Jr. aussi, non?
Cuba Gooding Jr. et Tom Berenger, je crois, si je dis pas de bêtises, quoi. Donc oui, non, c'est pas un très grand réalisateur, mais tu sens que c'est, je pense que c'était un film qui lui tenait un peu plus à cœur que les autres.
Oui, parce que déjà il est crédité au scénario, il est co-scénariste du film, et en plus le film se passe à Pittsburgh, dont il est originaire en fait. Il vient lui-même de Pittsburgh, et tu sens que d'ailleurs le film est assez un des aspects un peu intéressants du film encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs qu'effectivement c'est son cadre, parce que déjà Pittsburgh c'est pas forcément une ville qui est très très exploitée dans le cinéma américain, qui c'est une ville qui a quand même une histoire, parce que c'est une ville très populaire, enfin de prolo, parce qui a été bâtie sur l'industrie de l'acier et tout ça, et puis donc il y a effectivement ce cadre avec le fleuve qui entoure la ville et tout, qui permet un cadre assez cinégénique. Et dans le début du film, ça marche plutôt pas mal d'ailleurs, puisqu'il exploite pas mal la topographie, notamment t'as y a un moment que j'ai trouvé pas mal sympa dans la scène de poursuite initiale qui est relativement correcte.
Relativement, on va en parler.
Mais qui est, tu as un moment où ils poursuivent le tueur et t'as cette espèce de rue en pente avec qui est très cabossée, et tu vois donc les bagnoles qui font limite du tape-cul.
Mais c'est d'ailleurs je trouve les plans les plus impressionnants dans la poursuite, parce que justement, moi, le problème que j'ai avec cette poursuite, c'est que, et le score de Brad Fiedel n'aide pas beaucoup non plus là-dessus.
On dirait L'Arme Fatale.
On dirait surtout une série télé des années 80, quoi. Ouais. C'est-à-dire la musique, c'est-à-dire avec les riffs de guitare et tout.
Et du saxo.
Voilà. Et en gros, si tu enlèves, on va dire, ces quelques plans où effectivement, tu vois clairement, en fait, que les cascades sont assez impressionnantes.
Et puis
parce que
la topographie de la ville qui est un peu explosive.
Voilà.
Aussi,
et t'as un cortège de bagnoles, en fait, si tu veux, qui font vraiment des sauts, quoi, tu vois, les uns après les autres. C'est une coordination quand même assez costaud, quoi. À part ces plans là il y en a 3, hein, 4 quand même, tu vois.
Et puis t'as le crash à la fin.
Ouais, oui, bon. Mais enfin, les crashs, t'en as vu combien dans les séries télé déjà, si tu veux, dans les films de Bruce Willis. Et à part ces plans là je trouve qu'en fait finalement la poursuite est assez bateau, quoi. Tu vois, je te fais la blague parce que t'allais le faire, tu vois, mais en fait je le fais sur la poursuite en bagnole, donc du coup tu as fait une blague.
Si
est-ce que t'allais faire bateau, et puis voilà, tu vois. Donc voilà. Et après le reste, c'est que bah t'as aussi ça, je pense que on va dire que cette scène en soi, pour le coup, elle a un intérêt dramaturgique, puisqu'effectivement c'est à ce moment-là où, spoiler, le père de Bruce Willis meurt, voilà, quoi. Ouais. Mais ce qui lance aussi, en fait, qui déclenche l'histoire vraiment du film, quoi. L'autre truc, c'est qu'après, le reste du film est caviardé de scènes d'action.
Ouais.
Il fait sa petite patrouille sur la brigade.
Faut préciser qu'effectivement le film a eu une production un peu chaotique, puisque donc ça a vraiment été tourné comme un thriller, et quand ils ont fait les premières projections test, le public a absolument détesté. Les retours du public test étaient très très négatifs, et du coup ils ont dit il faut faire des reshoots, et du coup ça explique probablement l'aspect un peu schizo du film, et notamment effectivement cette scène d'action rajoutée en plein milieu où tout d'un coup tu te retrouves dans du die-hard, quoi, qui est même qui est absolument clairement pas amené, puisque c'est genre, ils sont en train de faire, comme tu disais, effectivement, ils sont en train de faire la patrouille, et tout d'un coup, ils remarquent, oh, le bateau, là, c'est un bateau qui transporte du charbon, et il y a des trucs qui ont l'air, oh, ben, il y a un mec, ils voient un mec en train de se faire escorter menace, sous la menace d'un flingue. Donc, ils font, oh là, il se passe quelque chose, et puis hop, bah, Bruce Willis prend le shotgun et va, va faire le ménage sur le bateau, ouais. Et c'est juste, c'est pas amené. Bon, la scène est pas en soi, est pas géniale, quoi.
En plus, c'est un putain de sniper, le mec, avec son fusil à pompe, parce qu'en fait, il shoot un bras, il désarme un mec avec un fusil à pompe, alors que t'as trois têtes à côté. Ouais, voilà, donc c'est assez, ouais, c'est très bien pensé. Mais après, voilà, c'est vrai que je pense que c'est un film. Alors, ce film-là, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est quand même une grosse star des RTL9 et des trucs comme ça, parce que t'as quand même Bruce Willis, t'as quand même, tu vois, bon, Sarah Jessica Parker, ça compte moins évidemment dans le truc, mais ça reste quand même une star, ce qu'elle n'était pas forcément à l'époque. Hein. Elle avait fait très peu de films, en tout cas très peu, elle n'était pas encore sur Sex and the City, quoi. Donc elle n'avait pas encore façonné totalement sa persona de star, on va dire. Là, c'est pareil, c'est un emploi assez, assez étrange, parce que, comme tu me le pointais hors antenne, il y a un petit côté misogyne dans le film, voilà. Et
ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, on spoil, mais effectivement, quasiment tous les personnages féminins du film meurent, en fait, quoi. Il n'y a pas à part elle, quoi. Voilà. Et encore, même et encore, elle est menacée aussi, mais non, ouais,
bon, ça encore, voilà, ça fait partie du récit, genre, mais en fait, moi, je pensais plus à des trucs du genre Bruce Willis qui fait la moue, en fait, quand il voit le costume de plongeur avec des formes de seins, tu vois, où t'as envie de dire, mais enfin, ça va, gars, on était quand même dans les années 90, ça va.
Oui, mais effectivement, le côté, il y a le gag sur le fait qu'au début, ce qu'elle s'appelle, elle s'appelle Jo, J-O, et quand il voit au début le nom sur le tableau, il fait ah tiens, j'ai un nouveau partenaire et tout, et puis évidemment il fait la gueule quand il voit débarquer une gonzesse, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, le truc c'est que bon, après,
mais tout de suite il voit que en fait elle est pas pareille, parce qu'il essaie de lui faire le même coup, tu sais, où la première fois qu'on voit avec son vrai partenaire, il lui fait le coup, il démarre, qui est joué par Timothy Busfield, là, voilà, il démarre le bateau,
l'autre
envoie
la
baille, et il essaie de lui faire on voit qu'il prépare le même coup à Sarah Jessica Parker, mais elle pense à se sécuriser et à se tenir, donc il voit qu'il peut pas lui faire, et il dit, ah, elle est maligne.
Voilà, je l'aime, je vais me la faire.
Oui, et alors c'est
tout ça le truc.
Et ça d'ailleurs aussi, c'est-à-dire que, pareil, le film arrive au moment où on est un peu dans la vague de thriller érotique post Basic Instinct, et à un moment où, apparemment le studio a fait des notes genre bon, les scènes d'amour là vous me les rendez un peu plus sexy, alors même si ça reste hyper chaste,
c'est très soft, ouais.
C'est très très soft, mais apparemment c'était une des notes du studio de dire il faut sexiser un peu, sexy, alors, rendez-moi ça plus sexy, quoi.
Quand on regarde la bande annonce du film, on voit qu'il y a déjà des scènes en fait qui sont coupées,
qui sont pas du tout dans le film, ouais.
Quand tu regardes le film,
les photos de production aussi, d'ailleurs j'avais regardé les photos de production sur IMDb, et tu vois des trucs qui, notamment une scène où il y a une photo où on voit Willis et Sarah Jessica Parker qui sont en train d'examiner un corps masculin qui a été tiré de la flotte, c'est pas du tout dans le film. La scène finale, il y a une photo où il est agenouillé au-dessus du corps de Denise Farina, qui est pas dans le film non plus. Donc ça a été beaucoup remonté. Et d'ailleurs, je pense aussi que, parce que les reshoots avaient eu lieu à LA en fait, et ça m'a frappé de voir que dans la deuxième moitié du film, tu perds un peu la spécificité du décor, d'ailleurs. Ça devient beaucoup plus générique, en fait.
Ouais, puis c'est beaucoup d'intérieur.
Ouais, c'est beaucoup d'intérieur, des trucs comme ça. Et du coup, ouais, là, tu perds ce petit apport qui était le cadre de Pittsburgh. Et effectivement, c'est parce que voilà, les reshoots n'ont pas du tout eu lieu dans le truc original. Et il faut savoir aussi que, donc, en plus de ça, pour ce qu'on en sait, les reshoots ont été complètement repris en main par Willis, en fait, quoi.
Alors, ça, c'était les grosses rumeurs de l'époque. Ouais. Alors, il faut recontextualiser pour Bruce Willis à cette époque-là. Globalement, au tout début des années 90, en fait, Bruce Willis était la star du cinéma d'action. Et pas seulement, en fait, puisqu'il est, contrairement à éventuellement Arnold et Sly, j'ai envie de dire dans une moindre mesure, mais Sly parce qu'il avait en fait cette aura de Cro-Magnon, quoi. Bruce Willis avait au moins pour lui la versatilité,
oui,
de son jeu,
il avait se cacher d'être un vrai acteur en plus,
voilà.
De ça, quoi.
Et en fait, malgré tout, c'est sur des films comme Die Hard et Die Hard 2 qu'il a fait son passage sur grand écran, après Moonlighting, après Clair de Lune, et le bide en fait assez mastoc du Bûcher des Vanités, et surtout la réception en fait lui ont été très négatives. S'ajoute à ça le beat de Hudson Hawk, qui est assez monstrueux aussi, quoi. Juste après.
Oui, je veux dire juste avant le film. Juste avant,
et le dernier Samaritain, qui est pour le coup, en fait, étrangement, est considéré comme un beat, mais avait été quand même un succès, en fait, en vrai. Parce qu'il avait été très peu vendu, justement, à cause de ces problématiques-là, quoi. Le Warner se disait, bon, on va se planter, en fait, il y a Bruce Willis, quoi. Et c'est quand même un film qui avait rapporté 60 millions à l'époque. Et quand tu fais un calcul en dollars constants, on est dans les 130 millions aujourd'hui, ça va, c'est pas dégueulasse.
Relativement à son budget, en plus. Voilà.
Ouais, voilà. Et pour un film d'action qui, en plus, aujourd'hui, est encore très apprécié, quoi, finalement. Et, malgré tout, en fait, bah, en fait, Bruce Willis était plus trop en dehors de sainteté.
Oui, hein, voilà, il était un peu dans la phase, une mauvaise phase, quoi.
Voilà, il était à un an du renouveau avec Pulp Fiction, quoi.
C'est ça.
Donc, malgré tout, ça l'a pas empêché de faire sa star apparemment sur le plateau, d'exiger, comment dire, une moumoute, apparemment.
Oui, parce que c'était le début. Ah, oui. Bah, tu
dis que c'est une rumeur, mais
c'est pas une rumeur. Tu as des plans à la fin où tu vois qu'il a pas la hyper la moumoute, en fait.
Ouais, c'est terrible.
La baston de fin dans la flotte, t'as un ou deux plans où tu. Tu vois le crâne chauve.
Ouais, puis il y a pas que ça, hein. C'est-à-dire il y a plein de moments où tu vois que la moumoute, c'est carrément le troisième rôle, quoi, dans le film, parce que là vraiment elle part d'un côté, elle part de l'autre.
Globalement, les looks du film sont un peu un problème d'ailleurs, parce que quand tu vois les mecs arriver dans moi je me souvenais pas forcément de ça, mais j'ai revu le film là, et la première fois que tu les vois débarquer avec leurs petits shorties et les chaussettes montantes, qui sont les uniformes réguliers de la brigade Fulel, tu te dis
on n'est pas encore dans un Besson avec les policiers français, mais
non, mais
ouais. Non. Et en fait,
prêter un peu à sourire, quoi.
Voilà. Et en fait, le truc, c'est que donc oui, une des rumeurs, c'est que effectivement, Bruce Willis aurait lui-même en fait assuré les reshoots
au moins qu'il avait vraiment pris la main.
Ce qui semble assez évident dans les reshoots.
Apparemment, les sources anonymes à l'époque disaient que c'était vraiment une affaire. Enfin, c'était un peu genre, enfin comme Hudson Hawk, quoi, où il avait un peu pris la main aussi, quoi.
Sauf que Hudson Hawk, c'est pas forcément vrai. En fait, le truc avec Hudson Hawk, c'est que dans ce que j'en sais, hein, ouais. De ce que pour le coup le réalisateur et le scénariste m'ont dit, c'est que quand je les ai interviewés, c'était que en gros Bruce Willis lui dirigeait, en fait, essayait de diriger les acteurs. Ce qui est un truc, en fait, comment dire, où il disait, il faut que, par exemple, il disait les Mayflower, là, les personnages de Richard Grant et
Sandra Bernhard,
merci. En fait, si tu veux, il fallait qu'ils jouent over the top tout le temps, et tout le monde n'était pas forcément d'accord. Et Bruce Willis disait si, il faut qu'il soit drôle, il faut que tout le monde soit drôle. Et en fait, le problème, c'était qu'il n'y avait pas de variante et tout. Mais même si moi, je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est un classique, tu vois. Mais voilà, c'était plus ce genre de choses-là. Ouais. Et là, pour le coup, je pense qu'il agissait beaucoup plus en tant que producteur, si tu veux. C'est pas tant... Enfin, on a considéré Hudson Hawk comme un vanity project, mais je pense qu'il serait beaucoup plus un vanity project sur Piège dans nos troupes, quelque part, dans le sens où il avait vraiment besoin de se refaire, ce qui n'a pas été le cas, quoi.
Et le truc, oui, parce qu'en plus, le film, du coup, les reshoots ont fait gonfler le budget du film, et à l'époque donc c'était distribué par Sony, et à l'époque c'était Mark Canton qui était président, et alors Mark Canton apparemment minimisait complètement les... Alors en plus c'était une année où ils avaient que des productions à problème, puisqu'ils avaient la Section Hero la même année, des trucs comme ça, quoi, et Mark Canton minimisait complètement les problèmes dans la presse, en disant mais ça se passe très très bien et tout ça, et bon bah derrière... Mais il reconnaissait que le film devait faire genre 30 millions de dollars, qui était quand même une petite somme à l'époque, pour rentrer dans ses frais, ce qu'il n'a pas fait. Je crois que le film a fait genre 28 millions.
Je pense que c'est un très bon carton vidéo.
Oui,
un très bon produit.
Oui, c'était un truc. Mais moi, j'ai découvert en vidéo à l'époque, de toute façon. Le fait est que, donc, et effectivement, donc voilà, Bruce Willis avait un peu apparemment repris la main sur le tournage. Et alors, le truc, c'est que ce qu'on en lit, c'est que Roddy Harrington était plutôt assez conciliant avec lui, quoi. Mais que derrière, ça n'a pas empêché de. Et le défendait même. Hein. Apparemment, il défendait Bruce Willis dans la presse, ce qui n'a pas empêché Bruce Willis derrière d'aller le débiner en disant que ça avait été une catastrophe, qu'il était incompétent. Et que, voilà,
ça, Bruce Willis, il le fait avec tout le monde.
Oui, et puis Tonnerre, en plus, c'est aussi un film qu'il a défendu à l'époque dans la presse, et puis 10 ans après, il est venu dire que c'était de la merde et que ça avait été un échec. Oui, il a beaucoup fait ça.
Ouais. Non, mais c'est quelqu'un qui a du mal à assumer, surtout, on va dire, des produits du studio, quoi, tu vois, mais je ne vais pas l'entendre dire du mal de Pulp Fiction, quoi, tu vois, à plus forte raison, parce que je pense que pour le coup, c'est un vrai film qu'il a vraiment choisi de faire avec, si tu veux, et qui pouvait représenter, entre guillemets, un risque à l'époque dans sa carrière, quoi, et qui s'avérait payant. Non, le souci aussi, c'est que donc tu te retrouves avec un film, comme on disait, un peu complètement schizophrène,
ouais,
quoi,
ça, c'est
avec des scènes complètement, enfin, je veux dire, on est à, replaçons le truc, en fait, on est à 2 mois après la sortie de Last Action Hero. Alors, non pas que Last Action Hero était un carton à l'époque et qu'il était influent, si tu veux, mais c'est quand même assez marrant de se constater que quand t'as un film comme ça, qui est censé être le gros carton de l'année, comme Last Action Hero qui sort, et qu'en fait, dans le même studio, les mecs font les mêmes erreurs, en fait, que Last Action Hero pilonne, si tu veux, dans leur propre film d'action, tu te dis qu'il y a même dans le studio, ils savent pas vraiment ce qu'ils font, quoi. Notamment, la façon dont il tue le tueur à la fin, où il sort son taser dans la flotte pour lui foutre dans la gueule, tu vois. Tu te dis, mais ça marche comment dans votre esprit, là? Vous êtes sûr que c'est physiquement possible, tu vois. C'est très, très bizarre, quoi. Et pourtant, tu vois, enfin, c'est des trucs où même moi, à l'époque, je m'étais dit, mais ils sont complètement cons, ce film, quoi. Pareil, on en parle de l'interprète du tueur
Alors oui, bah, oui, il faut en parler. On va être amené à en reparler, d'ailleurs. Je pense, puisqu'il est dans un autre film dont on va parler.
Ouais.
C'était Robert Pastorelli, Corelli, qui était connu à l'époque, je crois, parce qu'il jouait dans Murphy Brown, la série télé, ouais. Avec Candice Bergen.
Et il est dans Danse avec les loups.
Oui, exact, je ne me souviens plus. Alors,
L'âge des caisses.
Je l'ai pas revu depuis longtemps.
Bah, dans Danse avec les loups, c'est le mec qui l'emmène à la frontière. Et d'accord. En fait, en gros, à un moment donné, c'est le beauf, tu vois. Et l'autre, c'est le lettré, tu vois, John Dunbar. Et en gros, à un moment donné, il est en train d'écrire dans son journal intime, Kevin Costner, et ils sont au coin du feu. Et Pastorelli se lève, il lui lâche une caisse dans la tronche, okay. Il lui dit mets-le dans ton carnet.
Ouais,
ton
bah
carnet,
c'était plus quoi. Il était plus considéré comme un acteur comique, quoi, de toute façon, quoi. Et donc, alors apparemment, oui, donc voilà, donc il joue, donc c'est lui qui joue le cousin de Bruce Willis, qui est donc, on spoil, hein, le tueur, qui a survécu, on sait pas comment.
Là, c'est la cité de la peur, hein, le
ah,
truc.
Oui, oui, c'est ça. Mais apparemment, on lui avait dit, vas-y à fond, quoi. Il y va à fond. Voilà. Et alors, Pastorelli. Faut en parler un peu parce que c'est un mec qui a eu un destin un peu tragique. Il a été mis en accusation pour avoir tué sa copine de l'époque, qui a été en fait apparemment s'est suicidé chez lui et il a quand même été mis il a été soupçonné de l'avoir tué, d'avoir maquillé ça en suicide. Il a finalement été acquitté ou pas inculpé au final, je sais plus. Malheureusement sa carrière, enfin pour lui le pauvre, sa carrière a décliné après ça et il s'est un peu enfermé dans la drogue et il est mort assez jeune il a fait une overdose de morphine quoi à 49 ans.
À 49 ans. Et le truc, c'est que ça fait une quinzaine d'années, je crois.
Oui, c'est ça, c'était à la fin des années. Bah, c'était la fin en 99, je crois.
Ah ouais. Ah, moi, il faudrait que c'était au début des familles.
Ouais, je sais plus, j'ai plus la date en tête, mais oui, c'était après ça. Quoi.
J'ai envie de dire, en fait, c'est quand même un peu évident, en fait, la coke, quand tu regardes le jeu du mec dans le film, quoi. Parce que c'est un des côtés complètement ridicules du film. Hein. C'est-à-dire que ça fonctionne pas du tout, l'aspect serial killer. Déjà, ça fonctionne pas. Tellement parce que t'as pas de.
Bah, c'est pas vraiment hyper posé quoi. Alors, ils essayent de. Alors, tu vois qu'on est un peu dans le truc de serial killer de l'époque parce qu'ils essayent de faire un petit gimmick. Alors, même si pour le coup, il n'y a pas le truc genre sur la méthode de le tuer ou quoi que ce soit, mais il a le truc où à chaque meurtre, en fait, il appelle la police et il leur joue une bande d'une chanson sur le petit chaperon rouge, Little Red Riding Hood. Et c'est comme ça qu'ils savent qu'il y a un meurtre quoi, voilà. Et mais oui, le truc est pas très installé quoi. Et de toute manière, le problème c'est que le film,
ils essayent de te cacher qui est le tueur en fait.
Mais c'est le problème,
et...
c'est que le film, il y a pas vraiment le cast est vraiment resserré à un tel point que à part une vague fausse piste sur le personnage de Tom Sizemore, qui est donc le frère en fait du tueur et donc le cousin de Bruce Willis. T'as pas vraiment de doute sur qui ça peut être quand tu revois le film maintenant, c'est assez évident. Et le problème en plus de ça, c'est que l'aspect enquête du film est vraiment traité par-dessus la jambe, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, ils savent tellement plus quoi faire pour faire avancer l'enquête que c'est carrément le tueur qui vient les provoquer en balançant un truc à la flotte devant eux, quoi, tu vois. Alors, c'est aussi, alors ils te disent, ils justifient ça parce que c'est genre, ah oui, mais en fait, il a balancé juste un tapis, comme ça le met en porte-à-faux avec le reste de la brigade, il passe pour un con et tout ça.
Le problème, c'est qu'il passe pour un con depuis le début.
Oui, il passe pour un poivreau et tout ça. Voilà, donc, c'est vraiment un aspect du film qui est traité par dessous la jambe. En gros, les mecs, ils s'écrivent, comme on dit, ils se bloquent dans un coin et ils sont obligés de s'en sortir par des moyens juste absurdes, quoi.
Ouais, alors, de toute façon, parce que tout simplement, en fait, le film essaye d'être quelque chose qui n'est pas, oui. Et puis etc. Le point quand même sympathique, moi je trouve, du film, hein, c'est le casting.
Voilà, je voulais en parler effectivement, qui est un bon casting de second couteau qu'on aime bien, quoi.
Voilà, c'est ça, de mecs qu'on n'a plus trop l'habitude de voir aujourd'hui. Bon, certains sont morts,
sont morts malheureusement, puisqu'en plus de Pastorelli, il y a Dennis Farina qui est mort en 2013, et puis il y a Brian James aussi.
Brian James, alors lui il est mort en 99 pour le coup, voilà, et puis Brian James qui joue l'oncle connard
comme d'hab. Et puis voilà, Brian James joue le rôle habituel dans les polars des années 90, du flic qui est là pour casser les couilles, qui est là pour faire. Du flic ou autre d'ailleurs, qui est là pour casser les couilles du héros et pour se prendre une mandale à la fin.
Voilà, c'est ça, c'est la vengeance.
C'est-à-dire que c'est vraiment dans la lignée de William Masterson pour rester sur les films de Bruce Willis d'ailleurs, parce que c'est littéralement la même fonction que William Masterson dans Die Hard.
Sauf que non, excuse-moi.
Dans le sens où, non, mais pas dans la même fonction, mais je veux dire, à la fin, il se passe la même chose, quoi.
William Atherton, là, tu parles du journaliste.
Oui, dans
Die Hard, il fout la merde.
Oui, il fout la merde.
Alors que l'autre, il fait rien.
Il vient juste lui casser
Il vient juste mettre des insultes, tu vois. Non,
c'est l'insulte. Et c'est le même personnage.
Oui, il se prend une mandale à la fin.
T'as le même truc qu'avec le, je crois, c'est le sénateur dans le dernier Samaritain, tête ou bide, quoi, tu vois. Bam, bam.
Mais c'est pareil, c'est un enjeu aussi. Alors que Brian Jones, c'est absolument pas un enjeu.
Non, parce qu'il se pointe à chaque fois que Bruce Willis est là sur une scène de crime. pour lui faire alors est-ce que tu veux encore foutre ta merde et
ouais,
tout.
Ouais, c'est ça, quoi.
Et à la fin il fait bon je m'excuse mais tu dois vouloir m'en coller une quand même. Ouais, ça servait à rien mais bon il en met quand même une.
Ouais ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment le
catharsis, quoi.
Ouais, puis le truc habituel, quoi. Oui, ouais, vraiment le truc.
Mais bon, c'est Brian James donc il le fait bien.
C'est Brian James. Dennis Farina, on parle du père aussi de Bruce Willis au début.
John Mahoney.
John Mahoney qui est un acteur sympathique aussi.
Aussi, voilà. Il y a plus récemment d'ailleurs, il est mort il y a 2 ans je crois.
Voilà,
c'était le père dans Frasier, dans c'était Frasier.
Frasier, je sais plus. Ouais,
c'était possible, lui, je crois, ouais. Qu'il
le père. Mais voilà, Tom Sizemore qui était pas encore tout bouffi. Et
voilà,
tout,
y a Timothy Busfield.
Voilà, donc en fait t'as quand même un casting sympathique. Voilà, t'as quand même un casting plutôt sympa.
C'était un peu d'ailleurs beaucoup. C'est une des qualités qu'on peut trouver à beaucoup de films de l'époque d'ailleurs. Ce genre de truc un peu de. C'est ce qu'on appellerait maintenant des programmeurs en fait. C'était des trucs un peu B quoi, mais qui arrivait quand même à avoir un casting solide.
Ouais, c'est surtout que bon, ils ont l'argent, tu vois, donc ils peuvent se permettre en fait d'aller chercher tous ces mecs-là qui sont un petit peu soit comme c'est Tom Sizemore était un peu montant, soit qui ont fait de la bouteille comme Farina ou Mahoney quoi. Donc c'est vraiment un des aspects sympas. Il y a aussi comment il s'appelle le alors c'est un, il est pas très bon d'ailleurs je trouve dans le film, même si c'est un acteur que j'aime bien, le capitaine de Brooklyn Nine-Nine.
Ah oui, André Brouwer, effectivement,
ouais, voilà,
qui est tout jeune,
en fait, et tout mince, tu vois, donc du coup, et qui apparaît là-dedans, c'est pour vrai, ouais. deux, trois scènes, en fait.
Il joue le procureur qui essaie de coincer Bruce Willis, parce que, et puis là aussi, voilà, ça aussi, c'est le truc genre, qui sert à rien dans le film, limite, parce qu'il y a un twist sur le personnage de Sarah Jessica Parker, c'est qu'en fait, elle ne s'appelle pas Jo Christman, elle s'appelle Emily, je sais plus quoi, et en fait, c'est une flic des affaires internes qui est envoyée pour surveiller Willis.
Ouais. Voilà. Elle te demande à quoi ça sert exactement, au début, en plus, alors, pareil dans le récit.
Au début, pourquoi ? Parce qu'en plus, si je me rappelle bien, elle arrive, parce qu'il y a l'idée que, effectivement, comme le tueur cible ses ex, donc il y a est-ce que c'est pas lui le truc, voilà, mais oui, tu comprends pas bien pourquoi comme elle est introduite avant le retour du tueur, tu comprends pas trop bien pourquoi à la base il lui colle un flic des affaires internes dans les pattes,
c'est très bizarre,
c'est vraiment pour faire un twist quoi.
Mais alors le pour essayons de boucler un petit peu quand même, ouais. Faut quand même être honnête, c'est-à-dire que en fait pour moi c'était le premier signal d'alarme en fait dans la carrière de Bruce Willis, un film comme Striking Distance, hein, Piège en eau trouble, pour une raison en fait très simple, c'est que il a enquillé quelques films parce que à cette époque-là c'était quand même une star, hein, en tête d'affiche sur des produits assez consommation courante, on va dire, quoi. Je pense par exemple plus tard à Code Mercury. Bon, je mets de côté
le Chacal.
Ouais, alors le Chacal, je mets de côté parce que c'est vraiment un navet total, quoi. C'est nul à chier. Ouais. C'est un remake, hein, oui. du film de Zinman. Mais en fait, le problème, c'est que c'est déjà t'as Richard Gere, donc déjà ça annule tout, tu vois. C'est-à-dire que je crois que Richard Gere, le seul film à peu près correct que j'ai dû voir dans sa carrière, ça devait être Internal Affairs.
Affaire privée, ouais.
Voilà, Affaire privée de Mike Figgis, c'est encore, il faudrait que je le revoie. Mais à l'époque, je m'étais dit, oh, ça va, tu vois. Mais
alors, pas fan de Red Corner, donc
Red Corner, mais même pas que ça. tu cites un film dont personne se souvient, quoi. Mais même les trucs comme comment s'appelle Officier Gentleman, ouais. Ou un truc comme ça, c'est pas possible.
Lancelot,
Pretty Woman, tu vois, pour prendre les gros films, hein, les très gros films de sa carrière.
Lancelot,
ouais, voilà. Non, je pensais pas forcément Chacal, je pensais vraiment, tu vois, je te dis Code Mercury, Bandit, tu vois, avec ouais. C'est des films où tu te dis, mais pourquoi tu te retrouves là-dedans. Tu vois, et quelque part en fait un film comme Otage, tu vois, de Florent Mio, ouais. Aurait pu être ça,
ouais.
et pas du tout, oui, justement, oui. Parce que c'est vraiment en fait drivé par un réalisateur, ouais. Derrière qui a récupéré le projet, quoi. Mais c'est tout le problème de ces autres films.
Oui, et puis alors. Je tiens à en parler parce que pour le coup je me suis sacrifié, j'ai pris une balle pour vous, ne faites pas ça chez vous. J'ai tenu quand même à voir, parce que là ça fait environ maintenant une bonne dizaine d'années que Willis a sorti deux trois projets les DTV, où pour beaucoup il vient pour faire deux jours de tournage, empocher son 1,5 million réglementaire et avoir son nom en tête d'affiche pour les vendre. C'est toujours d'ailleurs souvent avec les mêmes producteurs, là le groupe Emmett Furla, Oasis Film et tout. J'en ai maté deux, c'est un enfer, quoi. Il a plus rien à foutre, quoi. Tu vois littéralement sur sa gueule qu'il est là pour toucher son chèque, quoi.
Enfin, il en a plus rien à foutre dans Raid non plus, hein.
Oui, mais
le remake de
des trucs un peu plus, mais ça encore à la rigueur, c'est des trucs qui sont un peu plus, tu vois, on va dire à leur niveau,
plus gros standing,
un peu plus de standing, quoi. Alors que là il vient littéralement, enfin pour moi j'appelle ça chier sur son héritage, quoi, parce que il a aucune raison de le faire, tu vois. Je veux dire, c'est même pas comme si Cage, on disait ça tout à l'heure, Cage il fait n'importe quoi, mais au moins déjà un, lui tu sens qu'il s'amuse, qu'il s'éclate un peu, et puis on sait qu'il y avait des problèmes avec le fils, quoi, donc il a besoin de la thune. Willis, je vois pas pourquoi il va encore faire ce genre de conneries, quoi. Et la différence, ceci dit, c'est que à la rigueur, au moins dans un truc un peu mid-level comme Striking Distance, il avait l'air un peu engagé quand même, quoi. C'est-à-dire qu'on lui demande de jouer le poivreau, il joue le poivreau, quoi. Aujourd'hui, il le ferait même pas. Aujourd'hui, il le ferait même plus, quoi.
Non, c'est clair qu'il s'est plus chier, mais puis en plus, c'est le mec qui a décidé qu'il avait le crâne à zéro, bah il le fait.
Ouais,
tu vois,
c'est ça, ouais,
quel que soit le film, de toute façon, ça sera Bruce Willis.
Concrètement, c'est vrai que ça fait 15 ans, ça fait depuis 10 ans maintenant que les films sur lesquels il a l'air d'en avoir un peu quelque chose à foutre, tu les comptes sur les doigts d'une main, quoi. C'est, en gros, t'as Otage, Looper et éventuellement Moonrise Kingdom, quoi.
Mais le souci après, c'est que bon, je pense qu'il est arrivé à un stade où il a vraiment. Enfin, quand on dit qu'il en a plus rien à foutre, c'est surtout que je pense qu'il est désabusé de sa carrière. Hein,
ouais,
il a toujours.
J'ai regardé sur IMDb, il a six films en production ou en préparation, quoi. C'est
bah, quand tu tournes que deux jours,
ça
fait deux semaines de tournage. Hein,
t'as des films où il est littéralement au téléphone tout le temps, quoi. Ouais. T'as des trucs où il n'a pas la moindre interaction avec les autres acteurs.
Ça se trouve, en fait, il est au téléphone juste parce que, en gros, c'était il était en train de recevoir ses coups de fil et ils se sont dit, bon, on va le filmer là, tu vois. Non,
franchement, c'est triste. Hein.
C'est triste. Après, voilà, le truc, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il s'était totalement enfermé dans son rôle aussi. Si tu veux, quand tu regardes, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un des premiers pas à Striking Distance quelque part. C'est-à-dire que tu sens que même s'il était impliqué, parce qu'il était plus jeune et peut-être plus fringant, on va dire. Bon, voilà, au final, c'est pas.
Bah, aujourd'hui, c'est un film qui ferait sans Mahmoud, justement. Voilà, c'est le niveau d'implication.
Et pas dans le rôle principal. Alors, un dernier truc pour finir.
Ouais. Il faut parler de la tagline.
Voilà, la tagline, voilà. Plus belle tagline de l'histoire du cinéma.
C'est magnifique. Alors, on l'a fait en français ou en anglais ?
Alors, on l'a fait en français pour que j'en comprenne déjà.
Alors, donc, la tagline du film, c'est quand même « Il ne fallait pas le mettre à l'eau s'il ne voulait pas qu'il fasse de vagues ».
Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui est quand même... Ils en étaient tellement fiers qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce,
ouais.
Sur l'affiche, partout, quoi. Et il faut quand même avouer que c'est un...
Ça claque.
Ouais.
Ça envoie.
C'est un bon jeu de mots. Si tu ne sais pas du tout que ça se passe sur l'eau, mais de quoi il parle.
C'est très bien adapté, d'ailleurs, parce que c'est littéralement, en anglais, c'était « They shouldn't have put him in the water if they didn't want him to make waves ».
Ouais, voilà. Mais c'est le truc, c'est que... Alors, ce qui est drôle là-dedans, c'est que, bon, encore les titres français, « Piège en eau trouble », tu te dirais, tiens.
Oui, bah c'est clairement.
Ça pourrait se passer, ça se passe sur l'eau, tu vois. Le titre anglais en américain, original. Non,
ah oui, donc complètement.
J'avoue que Three Rivers, ça aurait fonctionné.
Voilà,
aussi,
Three Rivers, c'était beaucoup plus adapté, quoi.
Voilà,
il reste d'ailleurs une référence à ça dans le film, puisque le bateau de son père qui prend s'appelle Three Rivers, d'ailleurs.
Ouais.
Voilà. Moi, je voulais quand même signaler, il y a un plan que je trouve assez sympa dans le film, c'est le plan d'ouverture. Où en fait, c'est une voiture qui arrive, qui se rapproche de la caméra en gros plan. Et t'as l'impression que c'est une voiture de flic. Elle arrive du fond de l'écran et elle arrive vers la caméra en gros plan. Donc tu penses tout phare allumé avec le gyrophare et tout. Et là, t'as l'apparition du titre sur un coup d'éclair. Et en fait, la caméra fait un dézoom et tu te rends compte que c'était pas une vraie voiture, c'était une voiture téléguidée en fait.
Coup d'éclair du taser du tueur.
Oh.
Attention, c'est le concept. Mais oui, alors
ça,
après...
ce plan-là est sympa, tu vois. Tu dis, pose un peu une ambiance. Bon, après, derrière.
Tu sais, enfin, je sais pas, moi à l'époque, les trucs avec le tueur de Dirty Harry dans le 5. Là, qui utilise une bagnole télécommandée aussi, c'était déjà ridicule. Si
oui,
donc en fait, je comprends pas moi ce genre de truc. C'est-à-dire que le plan en soi, tu peux le trouver sympa, mais le modus operandi du tueur, il est complètement.
Non, mais en plus, pour le coup, ça ne sert à rien. C'est juste qu'après, ils s'en servent pour dévoiler. Tu suis la caméra, suit le parcours de la petite voiture et ça dévoile la femme.
Parce que Mathieu,
le corps de la femme,
le tueur est un flic.
Oui, voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs la théorie, c'est ça. Dans le film, c'est Bruce Willis qui est le seul à théoriser que le tueur est un flic.
Et le tueur est un flic.
Et le tueur est un flic. Et il avait raison depuis le début.
Donc on vous a tous spoilé.
Ouais, bon.
Je pense que c'est réglé, mais je pense qu'en vrai, en fait, les gens qui écoutent Stéroïdes, ils ont vu les gens le trouble. Voilà, ils sont en train de pester parce qu'on a finalement assez tabassé le film pour ça.
Mais après, moi, ça se revoit. Honnêtement, hein, pour avoir comparé avec ce qu'il fait maintenant.
Ouais, mais là, faut pas comparer avec ça.
Ça reste regardable. Hein.
C'est pas parce que c'est sur Amazon Prime ou je sais pas quoi qu'il faut se taper ça non plus, quoi. Tiens.
Ne faites pas ça. Voilà. Ne faites pas ça chez vous.
Regardez un Marvel, je sais pas quoi. Bref. D'ailleurs, ce qui est drôle, en fait, c'est que c'est un mec comme Bruce Willis, il pourrait très bien faire les seconds rôles dans Marvel, le truc comme ça.
Il a fait G.I. Joe 2.
Ouais, mais G.I. Joe 2, c'était encore ailleurs, si tu veux. Mais je parle vraiment, en fait, ils sont tellement de stars, finalement, chez Marvel. Regarde, ils ont même chopé Stallone à un moment donné. Ils ont chopé, tu vois, Arnold, je comprends même pas qu'il soit pas là-dedans non plus, tu vois. C'est des trucs où, au lieu de faire des TV pourris, tu vois, sur la base de leur gloire d'il y a 20 ans. Au moins ils font des seconds rôles. Je dis pas que pour moi je préfère qu'ils fassent rien à ce stade-là, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est que ça me semble plus cohérent en termes de plan de carrière, si tu veux, et surtout que je suis sûr que même là on va pas leur demander de se fouler le cul, quoi. Donc à Stallone on lui demande pas trop de se fouler, hein,
il est dans
les Gardiens de la Galaxie 2,
il a pas un rôle qui lui demande des trucs physiques.
Donc c'est très étonnant, je trouve, que ces mecs là qui ont quand même été des putains de gros stars en fait dans les années 80-90, en fait, et pas ce réflexe en fait de proposer leur service pour ce genre de projet aujourd'hui,
ça serait limite moins triste que de les voir faire ce qu'ils font maintenant, quoi, parce que
des TV pourris, ça c'est sûr,
parce que Willis c'est vraiment le plus triste, hein.
C'est celui qui en a le plus sur la puce, rien à
foutre. Il en fait le plus, et puis effectivement, c'est même pas des trucs où on en parlera peut-être dans un épisode sur Arnold, mais t'as l'impression que même si Arnold, ces trucs sortent en vidéo, il essaie de se donner un peu des challenges, quoi, tu vois, de jouer des drames ou des trucs comme ça. Alors ça marche pas, mais il est pas en train d'essayer de capitaliser sur sa gloire passée pour juste faire
un peu
des trucs.
Quand même. Ouais, enfin, quand tu le vois sur Internet en train de sortir ses punchlines sur YouTube, c'est un peu chaud.
Chose, mais ça, c'est encore autre chose. Mais je parle de quand il fait des films.
Mais ce n'est pas un podcast sur Arnold, non, c'est un podcast sur Bruce Willis.
Voilà.
Et en fait, on va s'arrêter là. Bah, je pense qu'on a plus ou moins quand même fait le tour du projet. Merci Mathieu.
Merci Stéphane.
Merci à nos auditeurs. Merci Alain. Merci à la technique. Je n'oublie pas de remercier. Si vous voulez nous soutenir, tipeee.com, mot-clé Capture Mac, c'est 3E pour Tipeee. Vous pouvez nous écouter sur les agrégateurs de podcasts habituels. On va essayer de revenir. Je ne sais pas si ce sera le cas. On va essayer de revenir quand même avec une vidéo stéroïde parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas faite. Puis moi, je vous dis à la prochaine avec un prochain film.
Salut!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.